Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Quel plaisir de recevoir deux femmes enfin à mon micro. Bonjour Florence.
Bonjour Myriam.
Bonjour Anne.
Bonjour Myriam.
Alors, pourquoi cette singularité de donner des prénoms sans même dire qui je reçois? C'est parce que nous en sommes à la deuxième interview, chers auditeurs. Écoutez la première. Je reçois donc Florence Bruyère, directrice générale Éco-Urbain. Et Anne Thébault, directrice développement éco-urbain. On a beaucoup parlé d'éco-urbain, donc là, je vous incite encore une fois à écouter la première interview. On parlait de certains objets un peu singuliers sur lesquels éco-urbain, je dirais, s'occupe de la maîtrise d'ouvrage et s'occupe effectivement de mettre en place des outils différents avec des objets différents sur lesquels... Tout le CAUE du 92 est venu regarder cette belle école.
Tout à fait. Vendredi dernier, le CAUE est venu avec une cinquantaine de personnes visiter donc cet objet, comme tu le dis si bien, singulier.
Que je l'avais vu et que tu avais déjà visité.
Avec la
vue qui était formidable.
Voilà. Ouais. En fait, on est sur une programmation un petit peu atypique dans le cadre du quartier de la ZAC Arc Sportif, parce qu'on a une parcelle qui est quand même assez réduite sur une surface développée de plus de 5000 mètres carrés qui consiste à l'édification sur 4 niveaux de 19 classes.
C'est vrai que c'est impressionnant. J'incite vraiment les auditeurs à aller voir. C'est impressionnant.
Donc on a développé finalement l'équipement public à la fin de la construction des logements et on s'est retrouvé avec une parcelle assez réduite mais avec des fortes exigences de la collectivité et de vous et de nous-mêmes. Voilà. On voulait, en fait c'est Florence qui tenait absolument à avoir une cour en pleine terre et évidemment accessible au rez-de-chaussée. On a des espaces végétalisés.
Et partagés, ça veut dire que le rez-de-chaussée, il peut être accessible aussi par le reste des habitants?
Oui, il peut.
C'est-à-dire que c'est un espace de partage.
C'est un espace qui peut être partageable. En fait, c'est tout l'intérêt de cette école, c'est que tous les espaces sont mutualisables et réversibles. En fonction de l'évolution des pratiques. Donc, on a des salles de... Toutes les salles, par exemple, dans l'école, ont la même taille. Donc, elles peuvent être une salle de classe, une salle d'activité, une salle de réunion, une salle de... Enfin, voilà. Donc, on a vraiment travaillé ce programme.
Et le rez-de-chaussée est en porosité avec l'espace public autour.
En fait, il y a une double
autour.
Entrée. Il y a une entrée pour rentrer dans le bâtiment de l'école et il y a une entrée pour rentrer dans la cour. Donc, la cour peut avoir un fonctionnement indépendant du groupe scolaire.
Alors, c'est vrai que quand on a vu le chantier, c'était assez incroyable. Entre-temps, le chantier, il évolue. D'autres aménageurs, promoteurs viennent visiter. Quelle est la fierté, quand même, quand on considère qu'on est exemple?
En fait, pour moi, on a eu un défi gigantesque à relever, c'est qu'en 2021, quand je suis arrivée, les premiers habitants sont arrivés 8 mois après.
Waouh ! Ouais.
Pour une ZAC qui était créée seulement depuis 4 ans. Et en fait, ils sont arrivés très vite et le programme d'équipement public n'était
pas fait.
Pas fait, mais à peine lancé. Donc on avait des habitants qui arrivaient.
Ça veut dire que les enfants allaient dans des écoles
surtout,
dispersées
partout. Mais surtout,
il y avait même
pas, les rues n'étaient pas faites.
Ouais.
Donc il a fallu relever nos manches. Embaucher du monde pour réaliser le programme d'équipement public en 5 ans.
Alors, est-ce à dire que c'est une ZAC qui avait été, créée d'une manière un peu bizarre, enfin atypique, sans les équipements?
C'est une ZAC qui... Non, il y a un programme d'équipement public dans cette ZAC, mais les premiers objets qui ont été travaillés, c'est les lots de logements, d'appréhender le projet. Mais qui, du coup, derrière, nous fait courir après le temps pour le programme d'équipement public. Alors, on a décidé de tourner ça en notre faveur. Alors, on a décidé, finalement, de rendre les habitants acteurs de leur quartier et acteurs des projets. Donc, tous les programmes d'équipement public sont travaillés avec les habitants, on les accueille une fois par an, on a quasiment une hotline sur laquelle ils peuvent nous écrire, nous appeler de manière continue. Vraiment, on s'est dit qu'il fallait tourner ça en notre faveur. Et aujourd'hui, alors je dis pas qu'il y a pas des couacs, hein, ça arrive comme dans tous les projets. Mais par exemple, les enfants qui vont aller travailler dans cette belle école.
Elle ouvre quand l'école?
À la rentrée 2025. Ils viennent déjà la visiter, en fait. Ouais. Donc, ils viennent avec leurs parents visiter leur future école. Et ça, c'est assez improbable, quand même. Donc, du coup, on a essayé d'en faire quelque chose de positif.
Alors, cette école, elle est dans la ZAC de l'Arc Sportif. Bon, ça va, c'est facile. De toute façon, vous avez été boosté par les Jeux. Colombes, quand même, avec un stade extraordinaire qui, il y a 100 ans, a servi pour les Jeux de 24, qui a servi là 20 ans, enfin 100 ans plus tard. Bon, vous étiez quand même, c'était du caviar, non?
Non, c'était pas du caviar parce que vraiment la problématique, c'était ces habitants qui arrivaient. Et notre vrai enjeu, ça a plutôt été ça, notre moteur. Ça a vraiment été l'arrivée des habitants. Et
donc pas le prestige des Jeux.
Pas le prestige des Jeux. Alors on a la chance, on a un tiers des logements qui donnent sur le stade Yves du Manoir.
Ouais.
Donc pour le coup, il y a un emplacement assez exceptionnel. Mais c'est une opération compliquée parce qu'elle est quand même traversée par la 86. Et moi, je trouve qu'une des plus grandes réussites de cette opération, et c'est le programme initial.
De pas avoir le sentiment. Ouais.
C'est de
césure,
d'effacer
hein.
Ouais, un césure. Peu cette A86 ouais, par une programmation active qui protège finalement les habitants. C'est quoi une programmation active? Alors, ça dépend des côtés où nous sommes, mais on a des hôtels, on a un bâtiment des sports, on a un gymnase et on a la fameuse ferme urbaine. Donc, on est vraiment sur une protection qui a du sens d'un point de vue urbain. Et qui fait vivre le quartier. Et on est en train de réaliser un petit écosystème qui fonctionne bien, parce que on arrive à implanter des commerces, on a toute une procédure pour le choix des commerces au rez-de-chaussée, et finalement...
Ça, c'est pas évident, hein?
Non, c'est pas évident, mais on a une commission commune avec la ville.
Et en avez créé une foncière pour les commerces?
Alors, on est en train de la créer, on va en acheter quelques-uns, mais malgré ça, il y a une procédure où les propriétaires, que ce soit les promoteurs ou les futurs... propriétaires ne peuvent pas de toute façon acheter les commerces sans notre autorisation et sans l'autorisation de la ville. On a des droits de préférence et des droits de priorité, ce qui nous permet de contrôler l'implantation et du coup de travailler à cet écosystème, puisqu'aujourd'hui les commerçants travaillent avec les restaurants du quartier, avec les hôtels du quartier, la ferme aussi va travailler avec les opérateurs locaux. Donc vraiment, il y a une espèce de... Le circuit court a du sens dans cette opération.
Alors bon, je voudrais quand même parler des Jeux. C'est quand même une fierté. Oui. Bon, parce qu'on a visité avec l'AFDU le stade. C'était en plein travaux en plus, en train de le revêtement était en train d'être mis et les tribunes en train d'être construites. C'est quoi les conséquences formidables des Jeux? Est-ce que ça développe quelque part, et sur la ville et pour les habitants de la ZAC, de l'Arc Sportif, une identité particulière?
Eh bien, en fait, c'est vrai que le quartier s'appelle Arc Sportif parce qu'on est venu puiser dans l'histoire de Colombes avec 1924.
Oui,
et on bénéficie, comme l'a souligné Florence, du formidable terrain de jeu du manoir. En fait, finalement, c'est plus 1924 qui a aidé la ZAC.
C'est ça, j'ai l'impression.
Grâce à la création de la gare du stade qui date de l'événement de cette époque-là. À l'époque, pourquoi Arc Sportif? Parce qu'il y a une volonté d'avoir une dimension sportive. On a quand même un très bel équipement aussi qui va être livré là dans quelques jours, qui est le complexe sportif développé par l'agence ANMA, un double gymnase qui va accueillir notamment l'équipe
féminine. J'assure d'ailleurs les auditeurs à regarder le poste qui a été fait d'EDIS, qui est formidable sur effectivement.
Et là aussi, c'est un marché global de performance. Donc là aussi, avec un couple constructeur architecte.
Le constructeur est Vinci
et les conducteurs travaux qui sont également les mêmes qui travaillent sur le groupe scolaire se sont accompagnés par des AME aussi talentueux. Pourquoi le sport? Parce qu'il irrigue finalement un petit peu le quartier. On a le parcours sportif qui fait 800 mètres à peu près, qui longe la 86. On aurait pu se dire, ah dis donc, un parcours sportif qui longe la 86, ça donne donne pas envie. Et ben au contraire, on a travaillé avec nos paysagistes pour
problématiques de bruit.
Oui, les problématiques de bruit et d'insertion paysagère. C'est vrai qu'on a renforcé depuis 2020 le développement des surfaces végétalisées par petites touches. Et finalement, les petites touches, ça fait
cohérence.
Ça fait cohérence et ça donne un impact végétal beaucoup plus fort qu'attendu. Ce qui n'était pas forcément gagné, comme on a cette contrainte d'une autoroute qui est extrêmement fréquentée.
Pas n'importe laquelle.
Exactement. Et on fait face aussi à des décalages de travaux assez importants pour l'arrivée du tram, parce qu'on a le prolongement de la ligne T1. Qui devrait prendre place au boulevard de Valmy. Et c'est vrai que le département des Hauts-de-Seine a pris du retard sur cette infrastructure-là. Mais on y fait face et on développe les jardins à l'intérieur de nos trois îlots et le
parc
sportif.
Alors là, on parle des choses positives, dynamiques, qui avancent, etc. On va parler aussi d'autres projets parce que j'avais eu vraiment grand plaisir à visiter ces deux. Et je voudrais qu'on en parle bien évidemment, mais je reste quand même attachée à quelque chose qui m'avait beaucoup plu, c'était le projet Auriol. On peut savoir un petit peu ce qu'il devient, parce qu'effectivement il y avait cette envie de savoir ce que ce bel îlot allait devenir.
Alors, le projet Auriol, rapidement, c'est un projet sur 4 hectares.
Sur lequel Éco-Urbain était coordinateur, c'est ça?
Oui, on avait une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès d'un pool promoteur. Et sur ces 4 hectares étaient développés 210 000 mètres carrés. Et c'est on est dans une démarche d'urbanisme négocié où les promoteurs finalement ont pris la casquette de l'aménageur et nous on venait finalement réaliser un trait d'union entre les objectifs fixés par la collectivité et le travail des architectes et des promoteurs détenteurs du foncier. On était sur une composante essentiellement résidentielle avec un développement d'une architecture très singulière. Donc on avait des tours de 17 étages. Et aujourd'hui, on va dire simplement que le projet n'a pas passé le crash test du public.
On a... Non mais ça explique tout, parce qu'à partir du moment où on est dans une ville et qu'on se projette avec effectivement les habitants, la médiation, etc., si c'est refusé par les habitants pour diverses raisons, il n'y a aucune raison de continuer. On ne va pas continuer le crash test. Je trouve que c'est une très 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 bonne image. Et alors c'est demain, parce qu'au fond, c'est demain, c'est beaucoup plus intéressant que les choses qui ne fonctionnent pas. C'est demain, c'est quoi?
Alors c'est demain, c'est un espace où on a eu envie de travailler avec la ville.
C'est vrai que c'est impressionnant.
C'est impressionnant, mais vraiment on est sur de l'urbanisme de préfiguration. Et là, ça a vraiment tout son sens. Puisqu'on voulait travailler sur un équipement dédié à la transition écologique, sauf que personne ne savait ce que c'était. Et on s'est dit, en fait, on va l'assumer de ne pas savoir. Et donc, on va construire le programme.
Donc, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Comment fait-on?
En fait, on construit le programme et on teste. Et on a le droit de se tromper et on ne garde que ce qui marche. Et donc, on construit module après module, on construit les partenariats. Et du coup, on réalise un tiers-lieu qui fonctionne bien. Avec une exigence environnementale impressionnante, puisqu'on n'artificialise pas les sols.
Oui, tout est déplaçable. On voit tous les scolaires.
On est à 75% de réemploi. Donc on est sur des bâtiments énergie positive. Enfin voilà, c'est aussi un terrain d'expérimentation pour nous.
Bon, tout ça, ça donne envie aux auditeurs, je pense, de venir. Bon, vous allez devoir engager un guide à Colombin, parce que... Merci Florence, merci Anne, et
merci
à bientôt,
Myriam.
Chers auditeurs.
Merci Myriam.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.